ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme la radio.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femmes Radio Zone. Alors ce soir, c'est une pleine lune tout à fait particulière, parce que ce soir, mercredi 9 décembre, ce sera une éclipse totale de lune. Et oui, alors, une pleine lune, c'est le jour de la pleine lune, et en plus, elle va disparaître dans l'ombre de la Terre. Alors là, c'est vraiment un spectacle à ne pas rater, à part, bien entendu, qu'on voit pas, on voit pas la lune ni les étoiles, parce que on est sous les nuages, sous le brouillard, comme toujours, comme souvent à Genève. Mais ça fait rien, si vous pouvez monter sur le Salève et vous verrez à partir de 23h une éclipse de lune. De 07h à 1h21, l'éclipse sera totale, il fera nuit noire, malgré que c'est le jour de la pleine lune. Et puis après, à 2h28, la lune va réapparaître. Alors, si vous n'étiez pas persuadé que la Terre est ronde, vous le serez cette fois-ci en voyant l'ombre ronde de la Terre s'avancer sur la lune. 93.8 MHz, c'est Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, je vous le répète, sur Radio Zone. Et puis notre numéro de téléphone, c'est le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Bâle. Tout de suite, les informels, nos nouvelles sur Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Onde Femmes Radio Zone, nos nouvelles. En Pologne, la première ministre Anna Sukowska se prononce résolument contre l'interruption volontaire de grossesse, alors que les membres de son propre parti soutiennent la tenue d'un référendum sur l'avortement. L'Union démocratique en Pologne a donc décidé de soutenir la tenue d'un référendum sur l'avortement quand la première ministre Anna Sukowska se prononce quant à elle résolument contre l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Selon une étude publiée, 80% des Polonais appuient toujours et encore leur première ministre. Mais première principale pomme de discorde dans le gouvernement, le sujet de l'avortement. À part les chrétiens nationaux unis derrière la défense du droit à la vie et à un degré moindre les ex-communistes soucieux de protéger les droits de la femme, aucun groupe politique ne sait comment se positionner sur le sujet. Lors de leur dernier congrès, les libéraux ont choisi d'exclure la question de leur plateforme finale. L'Union démocratique, parti des intellectuels, est divisée entre un pôle hostile à toute législation répressive et un autre plus sensible au commandement de l'Église. D'une manière générale, la plupart des hommes politiques considèrent que l'avortement est une affaire de conscience personnelle et que la discipline de parti ne devrait pas, dans ce cas, être exigée. La position louable sur le plan moral pose néanmoins des sérieux problèmes politiques. L'avortement est un problème récurrent dans la politique polonaise depuis plus de 2 ans. En septembre 1990, le Sénat avait voté un premier projet très dur prévoyant 2 ans de prison pour les médecins avorteurs. Tiraillé entre un électorat permissif et des autorités religieuses pour le moins répressives, les députés ont toujours refusé de se prononcer sur le sujet. Aujourd'hui pourtant, le temps presse. Le 3 mai dernier, l'Ordre des médecins a mis en application un code d'éthique qui interdit aux gynécologues de pratiquer l'avortement sous peine de perdre leur emploi. Le document entre en contradiction avec la loi polonaise qui datant de l'époque communiste et est très libérale. Pour trancher le conflit, une commission parlementaire vient de préparer un nouveau projet uni qui devrait être débattu à la Diète dans les prochaines semaines. Le texte bat tous les records de sévérité. Il maintient la peine de 2 ans de prison pour les médecins, à moins que l'avortement ait été pratiqué pour sauver la vie de la mère. Il interdit les examens prénataux pour éviter que les femmes soient tentées d'avorter après avoir constaté des malformations de l'embryon. Il bannit indirectement l'usage des contraceptifs comme le stérilet et certaines pilules. Pour lutter contre ce projet, un comité s'est formé qui a décidé de lancer un référendum. Des récoltes de signatures ont déjà été massivement faites dans tout le pays. 500 000 de signatures ont déjà été recueillies en faveur de ce référendum national sur l'avortement. Mais cependant, cette limite des 500 000 signatures n'a, en l'état actuel de la législation, qu'une importance symbolique, car seule la Diète est habilitée à décider de tenir ou non un référendum. La chambre basse du Parlement polonais a déjà rejeté une demande en ce sens en juillet, et à ce jour, seuls 120 députés sur les 460 seraient assez téméraires pour accepter de voter en faveur de cette consultation populaire. Les viols collectifs ont lieu dans les territoires de l'ex-Yougoslavie acculent les Serbes à un jugement international. La confirmation de ces exactions commises contre les femmes en Bosnie bouleverse toute l'Europe. Helmut Kohl et l'Union de l'Europe occidentale ont pris position. L'idée d'une cour de justice est relancée, soutenue par la Suisse. Des lettres accablantes, des témoignages effroyables, des reportages insoutenables. La confirmation ces derniers jours de viols à grande échelle dans l'ex-Yougoslavie remue désormais les chancelleries occidentales, après avoir écœuré les opinions publiques. C'est Helmut Kohl hier qui a sommé la communauté internationale de prendre en compte cette escalade dans l'intolérable. Au moment même, les parlementaires de l'Union de l'Europe occidentale dénonçaient eux également dans une résolution les actes de viol dont sont victimes des milliers de femmes et d'enfants dans l'ex-Yougoslavie. Le texte condamne encore les cas reconnus de castration contre des hommes. La Suisse avait déjà exprimé une indignation semblable devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU réunie à Genève. François Nordmann relevait la gravité de ces exactions. La mobilisation des femmes qui préparent en Suisse une journée d'action le 10 décembre n'est pas étrangère à ce soudain concert de protestation. La Suisse est disposée à participer à la création d'un mécanisme devant lequel les auteurs des violations massives du droit international humanitaire devraient rendre compte de leurs actes, ce qui constitue le seul instrument de dissuasion, à moins de recourir massivement à la force, a dit encore l'ambassadeur Nordmann. Ce sont donc en Suisse principalement des femmes qui ont décidé de s'élever contre ces exactions et de s'organiser. 5 conseillères nationales ont ainsi interpellé le gouvernement et d'autre part toute une série d'organisations féminines appellent à manifester le 10 décembre. Mardi dernier, 5 conseillères nationales, tous partis confondus, ont donc déposé une interpellation protestant contre les sévices sexuels perpétrés dans les régions ravagées par la guerre. Acceptée comme urgente, la requête, qui a réuni plus de 100 signatures, sera encore discutée avant la fin de cette session parlementaire. Il s'agit de Geneviève Aubry, de Rosemarie Dormann, de Barbara Herrer. De Barbara Ehring-Binder, de Cécile Bullermann et de Susanna Deip. Elle demande notamment au Conseil fédéral de dénoncer ces viols comme crimes de guerre et d'agir dans ce sens sur le plan international. Les signataires souhaitent aussi que les portes de l'asile s'ouvrent à toutes les victimes de ces violences sexuelles. Car cyniquement, un seul cas de figure permet d'obtenir le statut de réfugié. Il faut que la femme ait été violée dans un camp avec le but de démoraliser les hommes de la partie adverse. La loi sur l'asile ne prend pas en considération les sévices sexuels commis par des soldats isolés. D'autres femmes, entre autres les Femmes pour la paix et Caritas et d'autres organisations, ont décidé également de faire de cette journée du 10 décembre qui commémore la création, la mise en service, on veut, de la Déclaration des droits de l'homme, de faire de cette journée une journée de protestation et de solidarité avec les femmes en ex-Yougoslavie. Je vous rappelle qu'entre mars et novembre 1992, entre 250 000 et 300 000 musulmans bosniaques ont été tués. La population musulmane en Bosnie-Herzégovine a perdu presque 15% de sa population. C'est donc pour une information complète et continue sur les dangers du racisme qui conduisent à la purification ethnique, mais surtout pour que cessent l'extermination, la déportation et les camps d'internement en Bosnie-Herzégovine que cette manifestation est organisée. C'est surtout Femmes pour la paix Caritas qui l'appelle. Elle aura lieu à Genève le jeudi 10 décembre à 18h à la place de la Fusterie. Les manifestants et manifestantes protesteront également contre toutes les formes de violence dans l'ex-Yougoslavie et pour une large accueil en Suisse des rescapés du génocide. Une quarantaine d'organisations et de partis politiques se sont joints pour soutenir cette action. Les participantes sont invitées à se munir de bougies, signe de protestation silencieuse. Un temps de recueillement interreligieux suivra à l'église Saint-Germain où toutes les religions seront présentes en signe de solidarité avec les femmes, les adolescentes et les vieux enfants victimes des viols systématiques. D'autres manifestations de ce genre auront lieu également dans toutes les villes de Suisse. Il y a à Lausanne, elle se passera à la place de la Palue dès 18h. Il y aura à Neuchâtel, à la Fontaine, une manifestation, un rassemblement à la Fontaine de la Justice. À Fribourg, elle aura lieu à côté de la gare. Le Conseil national débattra le 17 décembre des violences commises en Bosnie, suite donc à cette interpellation urgente des 5 conseillères. À Lausanne, par ailleurs, un groupe de femmes a décidé de venir tous les 15 jours en noir sur la place de la Palue pour protester contre ces violences commises contre les femmes et les exactions de tout genre en ex-Yougoslavie. Aux États-Unis, le sida est considéré comme une arme criminelle dans l'État de la Louisiane. Ainsi, un homme qui n'avait pas averti son ami qu'il était infecté par le virus du sida a été condamné pour homicide volontaire. Il y a donc un nouveau crime dans les textes de loi, homicide volontaire avec une arme bien particulière, le virus du sida. Environ 300 Américains sont inculpés de ce nouveau chef d'accusation. On leur reproche d'avoir délibérément caché à leur partenaire le fait qu'ils étaient séropositifs. La première condamnation pour homicide volontaire avec sida vient de tomber donc en Louisiane. Il s'agit d'un homme qui a été condamné à 20 ans de prison par une cour de Louisiane pour avoir transmis le virus à son ami à qui il avait caché d'être séropositif. La défense, elle nie, affirmant que c'est en parfaite connaissance de cause que son ami a poursuivi sa relation intime avec lui. L'avocate de la défense précise, je cite, « Le sida réveille des craintes profondes dans notre société. Le sentiment est parfois que l'on peut vaincre le sida en combattant ceux qui en sont atteints. C'est un sentiment erroné », a donc relevé une des avocates de la défense. Toujours aux États-Unis, un Américain a été condamné vendredi à verser 6 600 $ à son ancienne compagne qui exigeait des indemnités pour lui avoir fait le ménage et la cuisine durant les 7 dernières années de leur vie commune. Linda mérite des compensations pour s'être occupée toute seule des tâches ménagères, même si son ex-concubin, pour sa part, faisait le jardinage, réparait la voiture et partageait les frais avec elle, a estimé la cour d'appel de Madison, confirmant ainsi le jugement d'un autre tribunal. Durant leur vie commune, Linda et Arlan avaient des comptes bancaires séparés. Elles payaient les courses, lui les factures. L'un et l'autre ont chacun 2 enfants. Les tâches ménagères et les courses pour un foyer de 6 personnes, dont 3 sont en fait constituées par elle et ses enfants, cela peut très vite représenter un investissement considérable en temps et en argent, a expliqué la cour d'appel. « La France a livré à l'Irak du sang non testé pour le sida. L'Institut Mérieux, important fabricant français de médicaments, a révélé que sa dernière livraison de produits sanguins non testés pour le sida date du 12 février 1986, avec pour destinataire l'Irak. Eh bien, bien sûr, il faut bien se débarrasser de ces vieux stocks, hein. En France, démantèlement d'une filière de mariage blanc. 60 personnes soupçonnées d'avoir participé à une filière de mariage blanc ont été inculpées depuis quelques mois. Le réseau démantelé utilisait des jeunes femmes françaises en détresse. Il aurait permis la célébration de quelques 300 mariages de complaisance, facturés chacun 60 000 francs. Le coût donc pour le marié, c'était 60 000 francs, procédure de divorce à venir compris. Sur cette somme, la fiancée, une jeune Française souvent au chômage, percevait de 20 000 à 30 000 francs. Chacun des témoins recevait de 500 francs, parfois 200 francs pour rémunérer une éventuelle rabatteuse ou rabatteur chargée de recruter des jeunes femmes. Tout le reste tombait dans la caisse de l'organisateur de la filière. Au total, 98 personnes ont été interpellées. On retrouve tant les clients que leurs fiancés, leurs complices, ainsi que bien sûr que l'organisateur du réseau. L'affaire intervient à un moment où de nombreux maires multiplient les obstacles administratifs au mariage de couples mixtes, c'est-à-dire de Françaises et d'étrangers, en arguant de la multiplication des unions de complaisance. Ces pratiques, parfois illégales, font l'objet d'un contentieux judiciaire de plus en plus croissant. En Suisse, à Genève, hier, les rues de Genève ont vibré avec une des plus grandes manifestations de l'année. Plus de 10 000 personnes ont défilé à l'appel des différents syndicats et partis politiques de la gauche pour protester contre les restrictions budgétaires, le chômage galopant et le plan d'austérité. À Genève, tout ne va pas pour le mieux. En réaction à cette sombre situation de crise, les syndicats des secteurs public et privé, ainsi que diverses organisations ont mis sur pied une manifestation unitaire pour défendre le plein emploi et les acquis sociaux. Plus de 10 000 personnes ont répondu à leur appel hier à 18h30. Dans l'après-midi, une autre manifestation a réuni plus de 200 retraités qui ont également exprimé leur mécontentement face aux multiples hausses. Réunis Place Neuve, les manifestants ont écouté différents membres et partis de gauche et écologistes avant de se diriger vers la place du Mollard. En Suisse, toujours, les femmes et la gauche font basculer la ville de Berne. Petite bombe ce week-end lors des élections communales de la ville de Berne. La liste commune des partis de gauche, écologistes et du centre a conquis 4 des 7 sièges en jeu, déboulonnant les partis bourgeois. La gauche obtient donc la majorité aux législatives. Outre la victoire de la gauche, l'autre événement de ces élections communales, c'est l'entrée en force des femmes à l'exécutif et au législatif. Le meilleur résultat a été obtenu par Joy Mater du parti Jeune Berne. 2 autres femmes font leur entrée au conseil municipal, Thérèse Freuch, Alliance Verte, et Thérèse Guiguer du PRD. Cette entrée importante et inattendue des femmes sur la scène politique se confirme également au législatif, puisque 43% des sièges ont été enlevés par des femmes. Jamais les femmes n'ont été si fortement représentées dans les organes politiques de la ville de Berne. Le Parlement de la ville voit lui aussi son visage se modifier. Sur 80 sièges, 34 sont tenus par des femmes. On en était à 24% lors de la précédente législature. Le succès des femmes s'explique bien sûr par celui des listes de gauche et du centre. À titre d'exemple, le Parti socialiste a obtenu 23 mandats, dont 14 vont à des femmes. Jeune Berne, l'Alliance verte et le Parti évangélique et les chrétiens sociaux ont également une plus forte délégation de femmes que d'hommes. En revanche, seuls 2 des 14 sièges des radicaux sont occupés par des femmes. Quant à l'Union démocratique, elle a 2 femmes sur 8 sièges. Le Parti des automobilistes, lui, bien sûr, n'est représenté que par des hommes. Ouf. En Suisse, l'enseignement est en crise. On se rend compte que si l'enseignement coûte beaucoup d'argent, il produit relativement peu de cerveaux. La Suisse est un gouffre culturel, du moins si l'on en croit une étude comparative. Alors qu'elle investit beaucoup d'argent dans l'enseignement, elle compte moins d'universitaires que la plupart des pays de l'OCDE. Pire, elle atteint ce score désolant en dépensant beaucoup plus d'argent que les autres pour l'enseignement. Une seule consolation, nous avons peu de cerveaux, mais il paraît qu'ils sont meilleurs que les autres. La Suisse a donc moins d'ingénieurs que le Portugal et la Turquie. Une étude publiée par l'OCDE montre par exemple qu'il y a moins de spécialistes en mathématiques et en informatique en Suisse qu'en Italie, la Belgique ou même la Nouvelle-Zélande, où il y a plus de moutons que de personnes, alors vous vous rendez compte. Le taux suisse d'étudiants de degré supérieur est l'un des plus faibles de tout l'OCDE. Seuls 22% des personnes qui peuvent s'inscrire à l'université ou dans une haute école le font vraiment, alors qu'aux États-Unis, ce chiffre est de plus de 70%. Et puis, bien sûr, les femmes sont très, très faiblement représentées. Cette faible proportion des femmes dans les écoles supérieures suisses, de ce côté, nous nous plaçons juste avant la Turquie, ce qui est plutôt tragique. À l'opposé, les États-Unis affichent un nombre record de femmes dans les universités, tandis que le Japon, fidèle à sa réputation de rigueur, reçoit dans ses écoles une proportion équilibrée des deux sexes. L'étude conclut « Notre culture laisse encore trop peu de place à la femme, à la carrière universitaire, on lui préfère toujours un cursus domestique ». Taux de scolarisation, d'accès à l'enseignement supérieur et surtout un pourcentage de réussite très fort, c'est bien sûr le Japon qui est le pays le plus avancé. À Berne, des fonctionnaires seraient à la fois les interlocuteurs et les clients de prostituées. Quelques employés des services sociaux de la police municipale et de la ville fédérale seraient clients de prostituées toxicomanes dont ils s'occupent par ailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette accusation a été adressée par des organisations féminines actives dans les services sociaux. Hier, le législatif s'est lui aussi occupé de ce sujet et il a dit « D'accord, oui, c'est vrai, on ne peut pas être à la fois client de prostituées toxicomanes et soumettre ces mêmes femmes à des contrôles policiers d'usage, ni travailler avec ces femmes dans le cadre de programmes sociaux. Ce double rôle pourrait être terriblement pernicieux. » Pour terminer, quelques toutes petites brèves. Aux États-Unis, des panthères roses protégeront dorénavant les homosexuels et les lesbiennes de Washington. Le mouvement des militants Queer Nation, la nation homosexuelle, estime la police incapable d'assurer la protection des homosexuels. Ce mouvement a déjà mis en place des patrouilles semblables dans 20 autres villes américaines. Le prix Sakharov pour la liberté 1992 a été décerné à Strasbourg au maire de la place de Mai. Ce prix créé par le Parlement européen en 1985, alors que le prix Nobel de la paix Sakharov était en exil à Gorki, récompense un engagement particulier en faveur des droits de l'homme. Et pour terminer, quelques cochons. Ça fait longtemps que j'en ai plus distribué. Celui-là, je ne sais pas très bien comment le dire. Je crois que je vais l'appeler le cochon de la bêtise, le chapeau de la bêtise, le prix de la bêtise. Alors je l'accorde à une femme, présidente de la Société européenne de l'énergie nucléaire. Il s'agit de Madame Colette Lévinaire, qui a été donc élue présidente de cette association. C'est une fédération de 25 associations nucléaires réparties dans les pays d'Europe, de l'Atlantique et de l'Oural. Alors, elle se plaint parce que, vous voyez, le problème, c'est que les femmes, en général, n'aiment pas beaucoup le nucléaire. Cette industrie, dit-elle, rencontre plus de difficultés à s'adresser aux femmes qu'aux hommes. Les sondages montrent d'ailleurs qu'elles sont moins favorables à cette énergie, peut-être bien sûr par manque d'informations. Elles sont bêtes, vous comprenez, elles ont peur. Alors du coup, elle a mis sur pied un programme de 4 ans intitulé « Les femmes et l'énergie nucléaire ». Ah, waouh! Et puis un chapeau du cochon tout court. Celui-là, je l'accorde à la Suisse, donc le journal La Suisse du dimanche 6 décembre, qui essayait de pousser les gens à voter. Oui, bien sûr. Et on s'étonnera après que les femmes soient méfiantes. Donc une page entière pour nous pousser à voter, avec que des photos de monsieur. Alors les champions du non, c'est des messieurs. Les champions du oui, c'est des messieurs. Jamais on ne donne la parole à une femme qui serait pour ou contre, ou qui pourrait donner des arguments qui toucheraient aux femmes. Mais si quand même, à côté des photos des messieurs, on parle aussi de certaines femmes, en leur demandant « Comment est-ce que vous allez aider votre grand homme ?» Et ça s'intitule « Leur femme nous raconte ». C'était Radio Pleine les Nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune et puis Marjolaine. Nananen.
Thank you.